Aujourd'hui, là, en Serbie, nous ne faisons pas face à une crise humanitaire. Nous devons faire face à une présence continue et relativement importante de réfugiés et de migrants, et un afflux continu de réfugiés et de migrants. Notre rôle comme bailleur humanitaire pour la Commission européenne est de soutenir les autorités serbes de façon à leur permettre de pouvoir offrir l'hospitalité, des soins médicaux, de la nourriture, et de s'occuper des besoins spécifiques des situations en situation de vulnérabilité particulière. Donc nous sommes présents aux côtés du gouvernement pour offrir un package d'assistance aux réfugiés qui sont aujourd'hui bloqués en Serbie en attente de continuer leur route.
Quel nombre y a-t-il actuellement que vous comptez? Vous comptez qu'avec l'été qui va venir, ça va monter en nombre?
Le nombre de réfugiés migrants présents sur le territoire serbe n'a cessé d'augmenter depuis l'été dernier. À la fin du mois d'août 2016, nous pouvions compter environ 2 000 à 2 500 personnes qui étaient bloquées. Aujourd'hui, le chiffre se situe aux alentours des 8 000 personnes. Donc c'est une augmentation importante en peu de temps. Et tout le monde aujourd'hui est inquiet ou se pose la question de savoir quelle va être la situation dans les mois qui viennent avec le printemps, avec l'été et une arrivée continue de réfugiés et de migrants en Serbie qui risquent de se retrouver dans une impasse.
Quel est le rôle de ECHO ici?
Notre rôle en tant que bailleur humanitaire est simplement d'offrir les conditions de vie de base pour des personnes qui sont toutes en situation de vulnérabilité. La question de l'intégration est aujourd'hui une question qui ne se pose pas avec le gouvernement serbe, ou même s'il y a des discussions, ce n'est ni le souhait des autorités serbes, ni le souhait des réfugiés, des migrants qui souhaitent tous continuer la route. Et en aucune façon, l'aide humanitaire n'est destinée à soutenir la continuation de la route. Nous sommes simplement des humanitaires, nous fournissons de l'assistance sur la base de besoins dans une zone donnée.
Alors moi je viens juste des warehouses, des hangars près de la gare. En France, en Allemagne, je dirais, avec les médias occidentaux, cette place n'existerait pas aussi longtemps. Dans des quelles conditions? Alors comment juger ce qu'on voit là?
Type de rassemblement n'existe peut-être pas en Allemagne, mais c'est des choses qu'on a pu voir en France, à Calais. C'est pas quelque chose qui, malheureusement, est inconnu aux pays européens. L'arrivée de réfugiés et leur squat dans le centre de Belgrade a été un problème pendant tout l'hiver. Un problème qui a été mis en avant par des organisations humanitaires et le gouvernement serbe a répondu de façon assez rapide, en partie tout du moins à ce problème-là, en ouvrant le camp d'Obrenovac dans la banlieue de Belgrade, qui aujourd'hui offre un hébergement pour environ 1 000 personnes, en grande partie des personnes qui squattaient dans le centre de Belgrade. On voit aujourd'hui que ce problème n'est pas résolu. Il y a encore environ 1 millier de personnes qui sont présentes dans le centre de Belgrade. C'est un problème qui a été connu depuis le début de la crise. Même quand l'afflux a été extrêmement important, jusqu'à mars 2016, il y avait toujours un nombre de personnes présentes dans le centre de Belgrade pour des raisons soit liées à l'accès à des banques, soit liées à l'accès à des trafiquants pour les aider à continuer leur route. Mais les difficultés pour continuer la route aujourd'hui avec les frontières fermées et certainement l'arrivée nouvelle de personnes, soit par la Bulgarie, soit par la Macédoine, nous laisse craindre une augmentation du nombre de personnes présentes sur le territoire serbe. L'Union européenne, à la fois à travers des financements structurels et à la fois à travers des financements humanitaires, comme les financements d'ECHO, le bureau humanitaire de la Commission européenne, sommes de loin les bailleurs les plus importants sur cette réponse. Aujourd'hui, ECHO, depuis le début de la crise, a a alloué environ 25 millions d'euros pour la réponse. Alors, on parle de tout l'argent qui a été alloué depuis 2015, donc depuis les premières vagues de réfugiés.
Dernier développement par rapport à la frontière hongroise, comment vous les jugez d'un point humanitaire européen? Ça signifie quoi pour la situation ici?
Ça signifie un risque important de voir le nombre de personnes bloquées en Serbie à augmenter de façon continue. Aujourd'hui, la Hongrie autorise 10 personnes par jour à rentrer sur le territoire hongrois pour faire des demandes d'asile. C'est un nombre qui a été réduit de façon consistante depuis le début de l'année. Et les conséquences de cette décision sont qu'une famille qui, l'année dernière, devait attendre quelques mois pour pouvoir entrer légalement sur le territoire hongrois, aujourd'hui doit attendre 2 ans, sinon plus. Donc ça pose la question de l'ensemble du package d'assistance nécessaire pour à offrir à ces familles qui restent bloquées en Serbie. On parle d'enfants, on parle de femmes, on parle de personnes en situation de handicap. Il s'agit d'offrir un accès à l'éducation aux enfants. On parle de personnes qui...
Là, vous faites quoi au niveau accès, éducation, par exemple?
Des initiatives sont en cours, à la fois pour intégrer des écoles serbes. On a quelques exemples aujourd'hui qui sont positifs dans la banlieue de Belgrade. Et à la fois un renforcement de toutes les structures d'éducation informelle dans les camps, où apprendre à lire, apprendre à compter, éventuellement apprendre une autre langue, où les bases d'une autre langue sont des choses qui sont importantes. Et les enfants représentent plus de 40% de la population aujourd'hui en Serbie. Quand on parle de la crise migratoire, en général, on parle de jeunes hommes. Mais aujourd'hui, 60-70% de la population sont des femmes, des enfants. Donc il s'agit de leur apporter le soutien en termes de construction du futur, en quelque sorte, et puis aussi à apporter les pansements qui leur permettent d'essayer de panser des blessures. Le trajet pour arriver ici a été long, il a été souvent violent. On parle en majorité de personnes qui quittent des pays qui fabriquent des réfugiés, pour utiliser un terme pas très très joli, mais qui est assez évocateur, de Syriens, d'Irakiens, d'Afghans, qui ont été, sinon blessés physiquement, au moins blessés psychologiquement. Et il est nécessaire de leur apporter un soutien alors qu'ils sont ici.
Est-ce qu'il faut envisager que la Bosnie, avec sa longue frontière, devienne une réalité avec l'été venant?
Rien ne nous indique que c'est des routes qui vont prendre de l'importance. C'est possible, mais aujourd'hui, rien ne peut nous laisser penser. Le trajet à l'intérieur de la Bosnie est extrêmement compliqué, et puis en Bosnie, on se retrouve après, il faut passer la frontière croate, c'est aussi compliqué. Donc, impossible aujourd'hui de dire que personne ne va essayer. Certainement, certains individus, potentiellement certains groupes vont tenter l'aventure, mais au regard de la difficulté du voyage, ça reste quand même assez improbable que les chiffres soient importants.
Est-ce qu'il ne faudrait pas inclure la Serbie plus activement dans tous les plans européens sur la question des réfugiés?
Oui, ce n'est pas quelque chose qui appartient à ECHO de discuter, mais maintenant, pour toutes les personnes qui ne respectent pas les conditions nécessaires pour l'obtention du statut de demandeur d'asile, d'autres solutions doivent être envisagées. Et le gouvernement serbe, avec le soutien, entre autres, de mes collègues de la Commission, travaille. Et on travaille et on finance aussi des programmes au retour volontaires pour les gens qui ne satisfont pas les conditions nécessaires pour accéder à l'asile.